c'est de redécouvrir Jean. Mais Pierre, entre deux, est allé auprès de Jean et on comprend très bien. Pierre, après avoir pleuré, n'a qu'un seul désir, c'est de retrouver Jean, qui est le seul témoin. Et avec Jean, il y a Marie. Mais Marie, elle est dans son silence. Que Jean respecte, que Pierre respecte. Seul, roulé. Immédiatement, il croit. Il y a une présence de Jésus ressuscité au plus intime de son cœur qui le saisit et qui lui donne une joie prodigieuse. Il est vivant. Aux apôtres de jeter le filet après toute cette nuit où ils n'ont rien pris. Jean, après cette pêche miraculeuse, a tout de suite compris. C'est le Seigneur. Et il le dit à Pierre. C'est très beau aussi, ça. Il faut toujours souligner ces passages de Jean et de Pierre. Et de voir combien Jean a toujours les initiatives dans l'ordre surnaturel. C'est tellement d'importance, là. C'est pas Pierre. Pierre confirme. Et lorsque Jésus, après avoir interrogé Pierre, m'aimes-tu plus que les autres, et l'avoir dit trois fois, et qu'il a dit à Pierre qu'il devait faire paître les brebis du Christ, Pierre, voyant Jean tout proche, demande à Jésus et lui. Et Jésus alors dit cette parole si mystérieuse. Que t'importe s'il demeure jusqu'à mon retour, toi suis-moi. Jésus se réserve d'une manière toute spéciale la mission de Jean, parce qu'elle est liée à Marie. Alors il se la réserve. Et Pierre n'a pas besoin de s'en occuper. Pierre doit suivre Jésus. Jean, il doit demeurer auprès de Jésus. C'est là, je crois, toute la grande distinction entre les deux. Et la vocation de Jean, c'est de demeurer. Cette vocation contemplative, qui est une vocation apostolique, au très grand sens, mais contemplative. Il doit demeurer. Et doit demeurer jusqu'au retour du Christ. Comme s'il y avait une place tout à fait particulière, réservée à Jean. Et je crois réservée à tous ceux qui demandent à Saint Jean d'être leur père. Ils doivent vivre de cette même mission, demeurer auprès de l'agneau, témoin du coup de lance, fidèle à la croix, recevoir Marie comme mère, celle qui vit le mystère de la compassion. Poser leur tête sur le cœur de Jésus, dans le mystère et à travers le mystère de l'Eucharistie. Je crois qu'à travers tout l'Évangile, on peut découvrir cette sainteté de Saint Jean. Saint Jean. C'est particulièrement important pour nous. Et Saint Thomas, à la suite des pères de l'Église, se pose la question, lequel Jésus aime plus ? Jean ou Pierre ? Question classique. Saint Thomas, en tant que théologien, sait très bien qu'on ne peut pas répondre. Donc il aurait dû dire, inutile, c'est une curiosité. On ne doit pas répondre. Et Saint Thomas répond quand même. Moi je trouve ça très bon. Parce qu'on prend le théologien, j'allais dire, en flagrant délit de curiosité, de saint. Le dépassement de la théologie scientifique vers une théologie mystique, il est là. Si saint Thomas était rigoureusement un théologien de théologie scientifique, il dirait, je ne peux pas le savoir, ça c'est le secret de Dieu. C'est ce qu'on répond quand quelqu'un vous dit, mais c'est le secret de Dieu, on n'a pas besoin d'y regarder. Mais c'est plus fort que lui, parce que saint Thomas est un saint, plus qu'un théologien. Il est saint théologien. Et la sainteté déborde le théologien. C'est pas parce qu'on est un bon théologien qu'on est un saint. Il faut être un saint pour être un théologien saint. Et c'est la sainteté de saint Thomas, cela. C'est le théologien mystique, le théologien de l'amour. Regarde tout dans l'ordre de l'amour. Alors saint Thomas répond, cette chose étonnante. Jésus aime plus Jean. Pour trois raisons. La perspicacité de son intelligence. Un maître aime toujours plus un disciple intelligent. C'est merveilleux ça. Ça montre la perspicacité d'intelligence de saint Jean. À travers son amour. Il ne dit pas l'intelligence tout court, il ne dit pas la raison, hein. Il dit la perspicacité de l'intelligence. La pureté du cœur, on la comprend tout de suite. Et la jeunesse. Je trouve ça très très beau, parce que c'est la manière dont saint Jean vit des vertus théologales. Il vit de la foi. Dans cette perspicacité du regard contemplatif, de l'aigle. Il est l'aigle qui veut saisir toujours ce qu'il y a de plus profond dans le cœur du Christ. C'est l'évangéliste qui est toujours sur le regard de Jésus et qui veut nous exprimer. Ce regard de Jésus. Il est celui qui aime dans une très grande pureté. Il ne veut pas ternir son amour pour Jésus. Il veut que cet amour pour Jésus soit de plus en plus net, de plus en plus pur. Il a l'ardeur de la jeunesse dans son espérance. Jean ne vieillit pas. Il a cette ardeur profonde. Ce que saint Thomas souligne, la jeunesse. Et quand saint Thomas souligne la jeunesse, il dit cette chose très étonnante. On peut témoigner davantage son affection à l'égard des plus jeunes qu'à l'égard des plus âgés. Et donc il fait allusion à ce geste de Jésus qui prend Jean tout proche de son cœur à la scène. La jeunesse, la petitesse évangélique, c'est l'ardeur de l'espérance, où les gestes les plus audacieux peuvent être vécus parce qu'ils sont toujours moins audacieux que l'amour, et que l'amour les porte, et que l'amour va plus loin. Je crois que là, nous saisissons bien ce qu'il y a de si unique dans la sainteté de saint Jean. À partir de la croix, saint Jean a été éduqué par Marie. Et une des choses les plus belles, c'est d'essayer de comprendre cette éducation que saint Jean reçoit de Marie.
Alors avant...
avant d'y venir, puisque vous reparlez de la croix, je crois qu'effectivement la croix a dû être un événement très très fort et très bouleversant dans la vie de Jean. On peut se poser la question pour tout chrétien, toute personne qui lit l'évangile, pourquoi Dieu, pour communiquer son amour, sa paix, sa joie, a-t-il besoin d'autant de souffrances? Pourquoi a-t-il besoin de la mort et de l'agonie du Christ? Et de manière encore plus profonde, est-ce que ce mystère de la croix n'accroît-il pas ce qui est déjà le scandale de l'homme devant Dieu, à savoir la mort de l'innocent et la souffrance qui semble complètement inutile?
Sûrement que le mystère de la croix reste et restera toujours pour nous scandale et folie. Saint Paul le dit. Et Saint Jean l'a vécu. Et Marie l'a vécu. Au plus intime de son cœur de mère. Il est déjà dit dans l'évangile, hein, c'est Saint Luc qui souligne. Mais Saint Luc, sa source, c'est Marie et c'est Jean. Il est dit, quand elle retrouve Jésus de 12 ans, et que Jésus dit qu'il doit être tout entier aux affaires du Père, il est dit qu'elle ne comprit pas. Pas compris la croix. Quand Jésus était tout entier aux affaires du Père. Et pour elle, c'est folie et scandale. Et pour Jean, c'est folie et scandale. Et cependant, pour Marie, comme pour Jean, c'est la sagesse de Dieu. Je crois qu'il faut toujours être très attentif à cela. C'est que pour le croyant, la croix est sagesse d'amour. Dieu se sert de la souffrance et de la mort pour manifester
sagesse du Père. Alors,
dit c'est de la folie. Et donc on ne veut pas aller plus loin. Et là on trouve un plafond, un mur. On ne peut dépasser ce scandale et cette folie que si on regarde la finalité profonde de la croix. Et la finalité profonde de la croix, c'est de manifester l'amour, de glorifier le Père et de nous sauver en glorifiant le Père qui nous sauve. Et c'est dans le même acte que Jésus glorifie le Père et nous sauve. Ce qui est très étonnant, cela. D'habitude, l'amour à l'égard du Père se manifeste dans la contemplation. Et l'amour à l'égard des hommes se manifeste dans des gestes de miséricorde. Et là, les deux sont unis dans le même geste. Et ce geste, c'est justement l'offrande de toute sa vie. C'est le sacrifice, l'offrande de toute sa vie pour glorifier le Père et nous sauver. Comprenons bien.
Extraordinaire, ça. Et il nous est dit
lente amour, de l'orgueil du monde, des refus d'amour. Et Jésus prend tout sur lui. Et Jésus sait que sa mort, l'offrande de sa mort sur la croix, suffit au rachat de toute humanité, à la satisfaction de tous les péchés du monde. Il le sait dans son cœur d'homme Dieu. Alors, je comprends qu'en présence de ce que représente ce poids du péché et le mystère de la croix imminent, Jésus supplie le Père que le calice s'éloigne. Jésus ne dit pas que la mort s'éloigne, le calice, que la coupe du mystère de la croix. Donc le calice représente, cette coupe représente symboliquement le mystère de la croix tel que le Père veut qu'il se réalise. Or, tel que le Père veut que le mystère de la croix se réalise, c'est qu'au pied de la croix, il y a Marie, il y a Jean, il y a Marie de Magdala. Le Père veut que la croix surabonde dans le cœur de Marie, que la croix du Christ soit source de croix pour Marie.
Je crois
Marie et Jésus, entre Jésus et Marie, entre Jésus, Marie et Jean, et à travers toute l'Église. Alors là, nous découvrons cette sagesse de la croix, c'est-à-dire la révélation la plus intime de ce mystère d'amour et de cette alliance de l'époux et de l'épouse qui se fait en plénitude à la croix.
Vous avez donc bien parlé de Jean qui a confronté au mystère de la croix, ce qu'on a la croix qui nous touche tous. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de l'évangile dit selon saint Jean et un petit peu comment vous regardez, et de manière générale d'ailleurs, comment vous regardez les écrits attribués à saint Jean? Et première question, beaucoup d'exégètes contemporains dénient à saint Jean la paternité de cet évangile. Est-ce que vous, pour quelles raisons vous attribueriez à saint Jean l'évangile, ou au contraire, ça vous semble pas important comme question?
C'est évident que c'est très important. Parce que si l'évangile n'est pas de saint Jean, il n'est pas du disciple bien-aimé. Ou bien au contraire, le disciple bien-aimé n'est pas saint Jean. Sur les mots, n'est-ce pas?
Ou bien il est écrit par des disciples de saint Jean.
C'est plutôt les disciples, c'est un ramassé qui s'est fait après, voilà. Et que c'est la spiritualité.
C'est la thèse de notamment.
La spiritualité de saint Jean, c'est le courant traditionnel joannique qui a été recueilli par des disciples et mis ensuite. Bon, d'abord, c'est une pure hypothèse. Alors, très bien, les hypothèses.
Pensez-vous qu'il est probablement de saint Jean?
C'est parce que ce que j'ai dit tout à l'heure de saint Jean me montre que saint Jean était quand même lié à Jésus d'une manière très intime. Qu'il y avait un disciple qui s'appelait Jean et qui était très aimé de Jésus. Et que ce disciple, et je le comprends très bien, n'avait aucune envie d'écrire un évangile. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on n'a pas envie d'écrire sur lui. D'écrire. On peut parler de lui, mais pas écrire, parce que la parole est très souple. Je me souviens toujours ce que le père Finet me disait. Jamais je n'écrirai sur Marthe. Mais je comprends très bien. Quand on aime trop quelqu'un, on ne peut pas écrire. Parce que l'écriture sera toujours fragmentaire. Mais Jean a quand même eu cette révélation à la fin de sa vie. Cette révélation de Patmos. La grande révélation, l'Apocalypse. L'Esprit Saint l'attendait là. Et je crois que quand on reçoit la révélation de Patmos, de l'Apocalypse, on est suffisamment secoué. Et que c'est après cette révélation que Jean se met à écrire tous les secrets qu'il porte dans son cœur. Parce que l'Apocalypse les lui a donnés d'une nouvelle manière. Il peut alors donner son testament d'amour, qui est l'Évangile, qui nous montre le regard de Jean sur Jésus. Entre l'Évangile de Saint Jean et l'Apocalypse, il y a une très grande unité. Au point de vue théologique, il y a une unité extraordinaire. Tout ce que Saint Jean dit dans l'Évangile est présent dans l'Apocalypse sous un autre mode. Pour moi, ça montre l'unité entre les deux. Et entre les deux, la première épître. Il y a donc une unité entre ces trois œuvres joanniques qui me semble étonnante. Et ce disciple de Jésus a été disciple de Jean-Baptiste, comme on disait tout à l'heure. Il est donc lié à ce qui était juste avant le Christ. Et il est lié après. Donc, ça représente quelqu'un qui a été témoin de toute la vie de Jésus. Qui a été témoin des premiers pas de l'Église. De l'Église d'Asie Mineure. De ces églises, qui sont les églises de Jean. Je ne vois pas comment on pourrait découvrir un autre qui puisse être comme une doublure de Jean. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus simple de dire que, mais oui, c'est le disciple du Christ. Aucun argument sérieux montre que ce n'est pas Jean, le disciple du Christ. Oui, ça me fait penser à cette thèse de quelqu'un qui a écrit en disant qu'Aristote, que l'auteur de tous les livres n'est pas Aristote, que c'est un autre tout à fait semblable à Aristote. Alors, je trouve ça merveilleux. C'est comme le plaisir de donner des doublures pour dire que ce qui était traditionnellement vécu n'est pas vrai.
Il y en a même qui ont dit que Jésus n'avait pas existé, mais qu'il y avait un être tout à fait
différent, semblable.
Il était crucifié, mais ce n'était pas Jésus.
Mais oui,
on cherche toujours à montrer qu'il
est Romain. Toujours le plaisir d'enlever des certitudes simples. Et quand on regarde les arguments de ces gens-là, ça ne signifie rien du tout. Je crois que Jean, alors là, pour moi, c'est mon explication, mon exégèse à moi, qui est très particulière, je l'avoue. Je n'oserais pas la dire devant des exégètes scientifiques, parce que, il dirait très bien. Mais c'est la fréquentation de Saint Jean. C'est comme pour Aristote, hein, très différemment, mais c'est comme pour Saint Thomas. Il faut vivre avec ces gens, les aimer pour les découvrir. Saint Jean, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est un ami, c'est un père. Je crois que Saint Jean n'avait aucune envie d'écrire sur Jésus. confidentielle. Luc écrivait parfaitement le grec. Luc était intelligent et valait tout, et puis fin. Ils devaient s'entendre parfaitement, Luc et Jean. Mais en même temps, c'était la rencontre de celui qui vivait mystiquement et l'autre qui vivait intellectuellement. C'est très beau, du reste, comme complémentarité. Et Jean a communiqué à Luc tout ce qu'il pouvait communiquer. Si Marie était encore présente, Jean a été là pour assister à cette rencontre. Et si Marie n'était plus de cette terre, Jean a communiqué à Luc tout ce qu'il pouvait communiquer. Tout ce que Marie lui avait dit. Mais il y avait des secrets que Jean a gardés pour lui. Je comprends très bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre par un médiateur, par un intermédiaire, et qu'on garde. Et Jean, à la fin de sa vie, a eu ce choc terrible à Patmos. Il a vu la détresse de l'Église. Il a vu comment tout le mystère de Marie se prolongeait dans l'Église. Il a vu toutes les luttes que l'Église devra porter. Et à ce moment-là, pour cette Église des derniers temps, puisqu'on est toujours dans les derniers temps, pour cette Église des derniers temps, il a écrit son évangile. C'est-à-dire, il a écrit les secrets qu'il portait encore dans son cœur. Parce que l'Apocalypse lui permettait de les dire. Voyez, ce que Marie lui a dit dans l'intimité, c'était un secret. Et Marie n'a sûrement pas dit, tu devras un jour écrire ça. Non, je te communique à toi cela, parce que tu es mon fils bien-aimé. Quand une mère dit ça, elle n'a pas envie de le répéter. Mais quand l'Esprit Saint vous secoue d'une manière telle qu'il vous montre que tout ce qui a été dit dans le secret du cœur, subitement, est révélé pour toute l'Église, à ce moment-là, on comprend qu'on doit dire ces secrets qu'on porte. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour Jean. Vous voyez, je prends par exemple le prologue, le Logos. Je suis persuadé que c'est un très grand secret que Marie a communiqué à Jean. Je crois que c'est la contemplation de Marie à la croix. Je le crois profondément.
L'incarnation du Verbe.
Le mystère, le prologue. Oui, que Marie à la croix a eu cette révélation du Verbe fait chair. L'ange à l'Annonciation lui révèle qu'elle sera la mère du Fils de Dieu. Et à la croix, elle découvre le mystère du Fils, qui est le Logos, qui est la sagesse. Ça me semble impossible que Jean n'ait pas demandé à Marie un jour, après la résurrection, ce que Marie vivait à la croix. Moi, j'aurais été à la place de Jean, je l'aurais demandé. C'est impossible. Marie était debout au pied de la croix. Ça devait être fou de voir le visage de Marie tourner vers Jésus. C'est impossible que ce ne soit pas inscrit dans le cœur de Jean. Et c'est impossible que Jean, avec tout son amour pour Marie, tout son amour pour Jésus, n'ait pas dit à Marie, mais qu'est-ce qu'elle a vécu? Et Marie lui a dit qu'à la croix, elle comprenait que tout était repris. Que tout était repris. Que c'était qu'une nouvelle création, une recréation de tout. Par le Logos, par le Verbe qui était devenu chair. Mais c'est un secret, ça. Et quand Jean, alors, dans l'Apocalypse, découvre ce cheval blanc en pleine lutte, la victoire du cheval blanc, et sur ce cheval blanc, inscrit sur ses cuisses le nom de Verbe de vie. Il y a donc cette révélation en grand, c'est plus secret, de Jésus victorieux à la croix, le cheval blanc, et son manteau qui trempe dans le sang, et le nom, le Verbe de Dieu, le Verbe de vie. C'est tout ça extraordinaire, alors on comprend très bien l'origine du prologue. C'est le secret que Marie communique à Jean. Et puis, c'est cette confirmation, ou plus exactement, cette projection prodigieuse que Jean voit dans l'Apocalypse, la victoire du cheval blanc. Un jour, prêchant à Châteauneuf, je dis à Marthe, « Marthe, ne croyez-vous pas que le prologue de Saint Jean, c'est la contemplation de Marie à la croix ?» Puis j'explique un tout petit peu. Marthe me répond avec sa petite voix, « Mais c'est bien évident, père !» Et ce qui était merveilleux, justement, avec elle, c'est quand on lui disait ces choses-là, on voyait l'évidence. Le pauvre théologien cherche. Elle, c'était l'évidence. Il n'y avait pas de problème, quoi. Aucun problème. Eh bien, tous les grands passages de l'Apocalypse, pour moi, c'est les secrets que Jean a reçus de Marie qui sont mis en pleine lumière. Du reste, hein, si on est attentif, il est dit au début de l'Apocalypse, je n'ai pas le texte ici, mais il est dit au début de l'Apocalypse.
Ce que l'Esprit nous faisait connaître.
Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ces visions. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques. Il envoya son ange. Pour moi, c'est la reine des anges qui est envoyée. C'est Marie, reine des prophètes. Et toute l'Apocalypse est transmise par Marie. Ça me semble le rôle propre de Marie, éducatrice de l'apôtre. De l'apôtre dans son rôle d'apôtre des derniers temps. La reine des apôtres, la reine des prophètes, elle est médiatrice. Et donc,
c'est bien que vous parlez de l'Apocalypse, que c'est peut-être bien d'en parler maintenant avant de venir à l'Évangile.
Oui.
C'est un ordre donc pédagogique et chronologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'Apocalypse? Je crois que tous les gens qui le lisent comme ça en profane, on n'y comprend rien. En même temps, on est émerveillé par ces immenses figures, ces grands combats, etc. Qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse? Est-ce que c'est un texte qui annonce quelque chose qui doit arriver, ou est-ce que c'est un texte symbolique qui veut parler de la vie spirituelle? On ne sait pas trop ce que c'est l'Apocalypse.
L'Apocalypse, pour moi, c'est un livre merveilleux. Du reste, il suffit de lire ce qui est dit. Hein. Elle commence par l'Apocalypse. Elle s'explique par elle-même. Elle s'explique d'une façon étonnante. Hein. Parce que pour moi, l'Apocalypse, c'est un grand livre. C'est peut-être, au point de vue grandeur, c'est le plus grand des livres. L'évangile de Jean est beaucoup plus intime. L'évangile de Jean, c'est les secrets. L'Apocalypse, c'est pas les secrets. C'est un livre étonnant sur le point de vue de l'économie divine. C'est la théologie de l'économie divine. C'est
Alors, sans faire une exégèse ligne à ligne de l'Apocalypse, est-ce que vous pouvez, en 10 minutes, un quart d'heure, nous dire qu'est-ce que veut révéler fondamentalement l'Apocalypse ? Quel est le cœur du message que Dieu veut révéler dans l'Apocalypse aux hommes ?
Pour moi, je lis l'Apocalypse depuis très longtemps. Quand j'étais au noviciat, c'était l'Apocalypse qui me permettait de dépasser les moments de cafard. Pendant le noviciat, on a toujours des moments un peu difficiles, un peu rudes. Surtout quand on fait son noviciat, quand on est jeune, quoi, on est quand même très seul. Et alors, je me plongeais dans l'Apocalypse. Et ça me donnait une force étonnante. J'y comprenais rien, mais ça me donnait une force étonnante. C'était un vin généreux. C'est ce que tout fort dans toute la révélation. Et c'est pour nous fortifier dans notre espérance. Je crois que les trois écrits johanniques, vous voyez, la foi contemplative, l'évangile de Saint Jean, l'Apocalypse, l'espérance, et la première épître, la charité, c'est les trois livres qui doivent éclairer d'une manière ultime toute notre vie théologale. Et notre espérance, lorsqu'elle est très secouée comme maintenant, elle a besoin de cette nourriture extraordinairement forte. Alors l'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte une vision de Jésus dans la gloire. C'est la seule. Et ça a dû frapper Jean, ça, d'une façon étonnante. Jean, la dernière fois qu'il a vu Jésus sur la croix. Et puis après, Jésus, dans les apparitions, Jésus l'a regardé quand même, le soir de Pâques. C'est impossible, il n'est pas regardé. Il n'y a pas eu le regard du Christ qui a croisé le regard de Jean. Jésus a dû regarder chacun en particulier, et tous, mais chacun en particulier. Et puis après, plus rien, Jean a vécu de la foi. Et Jean attendait le retour du Christ. Faut pas l'oublier. Et Jésus a promis qu'il reviendrait. Et si on prend matériellement les paroles de Jésus, cette génération ne passera pas avant que. Alors, il est le dernier de la génération. C'est terrible d'être le dernier d'une génération. Des apôtres. Tous les apôtres sont morts. Il ne reste que Jean. C'est quand même quelque chose. Et donc, il doit revenir. Et ce mystère que Jean a dû vivre, quand il a vu que Pierre mourait, et qu'il y en avait un successeur de Pierre. Bon, Jean n'a eu aucune envie d'être successeur de Pierre, c'est bien évident. Mais quand même, ça n'a pas été Jean le successeur de Pierre. Ça n'a pas été un apôtre successeur de Pierre, c'est un autre. Et quand Jean a vu qu'il fallait qu'il y ait des successeurs pour les églises qu'il a fondées, tout ce problème de la succession, pour nous ça semble très simple, hein, parce qu'on a vu beaucoup d'évêques qui mouraient, puis d'autres évêques qui blasaient, on a vu des papes qui mouraient, d'autres papes. Bon, ça ne nous trouble pas trop, nous. Mais le début, cette génération des 12, et Jean le dernier, moi je me pose souvent ce problème-là. Quand on a des c'est pas la victoire. Ça se terminera par la croix. Et ça se terminera par la croix. Avec tout ce que ça implique. C'est donc pour l'espérance de Jean. L'espérance eschatologique de Jean. Que l'espérance de Jean soit fixée sur les luttes ultimes et dernières. Et pour qu'à travers cela, il ait ce regard sur la gloire. La première vision de l'Apocalypse, c'est quand même Jésus dans la gloire. C'est la gloire de Jésus prêtre. C'est la glorification du sacerdoce du Christ. Et on montre Jésus dans la gloire comme grand prêtre. Donc, le passage de Jésus victime d'amour à la croix, la résurrection, et au terme de la résurrection, cette présence de Jésus dans la gloire. Et dans cette lumière de Jésus glorifié, il nous est montré les sept églises de Jean. Je crois les sept églises que Jean a dû fonder. Je crois que c'est les sept églises de Jean. Jean n'est pas successeur de Pierre, donc il ne peut pas écrire pour l'église universelle. Il peut écrire pour ses églises. Et en même temps, ce qu'il écrit pour ses églises, c'est vrai pour l'église universelle. Vous voyez, toujours ce caractère très singulier, très personnel de Jean. Pierre, c'est l'église universelle. Il quitte la Palestine, l'Asie mineure. Il va à Rome. Jean est resté dans un contexte beaucoup plus proche de l'Évangile. Mais quand même, c'est l'Asie mineure. C'est les sept églises. Et ces sept églises, il a vu une succession apostolique pour ces sept églises. Et il a vu que c'est cette église, oui, c'était beau, mais en même temps, c'était assez tragique. Alors, il y a cette correction de cette église qui, je crois, nous montre le regard de l'apôtre, bon pasteur, responsable de ces églises en face de Dieu, et qui les porte. Et qui à la fois montre tout l'amour du Christ pour elle, mais en même temps, combien les luttes sont fortes. C'est très beau, hein, la correction de cette église. C'est un regard merveilleux.
Je repère.
Oui. Ensuite, nous entrons justement dans ce regard du Christ qui vient bientôt. Maintenant, dans ce qu'on appelle proprement l'Apocalypse, parce que cette vision première qu'on oublie souvent et qui est pourtant très importante parce qu'elle montre le souci apostolique de Jean. Et moi, je suis très très frappé de ça. Jean nous enseigne ce que c'est qu'un apôtre. Il nous montre ce que c'est qu'un apôtre, ami du Christ. Il y a le grand mystère des sceaux qui sont les décrets de Dieu. Seul l'agneau égorgé peut enlever ses sceaux. Je crois que c'est le grand mystère de la prédestination. Et la prédestination, puisque c'est les volontés de Dieu sur l'Église et sur chacun d'entre nous. Et on montre que cette prédestination, le Père la réalise à travers le cœur blessé de l'agneau. Parce que seul l'agneau peut enlever les sceaux.
Il y a une prédestination.
Une prédestination. Le regard de Dieu sur d'où.
Ah oui. Mais pas au sens calviniste.
Non.
Chaque être est prédestiné à être sauvé.
Au sens traditionnel, avant Calvin. C'est le regard de Dieu. Quoi ? Le regard de Dieu sur chacun. Sur vous. Sur moi. Nous sommes prédestinés, mais ce qui n'enlève absolument pas notre liberté. Et on monte justement dans ces sept sceaux, comme les sept dimensions profondes du regard de Dieu. Pour moi, c'est très beau, et c'est toujours à travers le regard du Christ. Et là, c'est directement Jésus qui nous révèle les sceaux. C'est l'agneau comme égorgé. C'est donc à travers la blessure. Est-ce que cette huile qui me tombe sur la tête et qui me fait mal et qui me blesse, est-ce que c'est le démon qui m'en veut? Ou est-ce que c'est tout simplement Jésus qui veut que j'arrête pendant un certain temps pour être ermite à l'hôpital? Je n'en sais rien. Alors il y a toutes les interprétations pieuses. Et alors on voit que le mystère des trompettes me montre que je ne dois pas chercher. Je dois simplement accepter, peu importe, c'est le mystère des trompettes. Puis, après, nous avons alors le chapitre 12, qui est le chapitre clé de l'Apocalypse. C'est le mystère des signes. Contrairement à ce que disent ordinairement les exégètes, 7 signes, pas du tout, il y a 3 signes. Et c'est très beau qu'il y a 3 signes. Il y a un signe grandiose, chapitre 12, un signe grandiose en ciel, la femme revêtue du soleil, avec les 12 étoiles autour de la tête, et qui touche de son pied la lune. La lune est à ses pieds. Et puis, face à la femme qui enfante, qui est sur le point d'enfanter, qui est dans les douleurs de l'enfantement, il y a le dragon. Alors, les signes, qu'est-ce que ça veut dire? Les signes, c'est la clé de l'intelligibilité de ces luttes. On veut nous faire comprendre ce que représentent ces luttes. Ces luttes, c'est dit dans l'Écriture. Dieu met une inimitié entre la femme et le serpent. Il y a une lutte entre Marie, la femme, c'est premièrement Marie, c'est l'Église. C'est chacun d'entre nous, la petite créature dans sa fragilité. Et le dragon, c'est le serpent antique, c'est le diable, l'adversaire. Et on nous montre cette lutte implacable. Le démon poursuit la femme au désert quand elle a mis au monde son fils, qui lui, immédiatement, rejoint le ciel. Parce que le démon ne peut rien sur Jésus. Jésus ne peut pas pécher, il est fils de Dieu. Tandis que Marie est une petite créature. Et le démon sait qu'elle est une petite créature, qu'elle n'est pas Dieu. Le démon sait qu'elle est aimée de Dieu, mais qu'elle est vulnérable et qu'elle peut pécher. Et c'est pour ça qu'il la poursuit jusqu'au désert. Et comme là, au désert, il ne peut rien. Le désert, c'est l'adoration. Il ne faut pas l'oublier symboliquement. Quand on adore Dieu, on échappe au démon. Le démon ne peut plus rien sur nous. C'est le grand mystère de l'adoration. C'est ce que montre l'Apocalypse. Il nous montre qu'en face du démon, on a une arme extraordinairement forte qui fait qu'on échappe complètement à sa poursuite. C'est dès qu'on adore Dieu. Le démon connaît notre psychologie. Marie, c'est différent, il ne connaît rien en elle puisqu'elle est immaculée. Et on voit très bien cette fureur qu'il a vis-à-vis d'elle parce qu'il ne la connaît pas. Et donc, il lui échappe. Et dans son orgueil, le démon ne supporte pas qu'une petite créature qui est petite descendante d'Adam et Ève puisse lui échapper. Marie fuit au désert, la femme fuit au désert. Et là, il y a un lieu que lui préparer. Dans l'adoration et la contemplation, avec les deux grandes ailes de l'aigle, le mystère de la foi et de l'espérance, l'adoration et la contemplation, elle échappe complètement au démon. Et quand le démon voit que Marie lui échappe, alors il va poursuivre sa descendance, tous ceux qui sont de la race de la femme. Et on voit là une stratégie du démon, avec la bête de la terre et la bête de la mer. Le démon fait alliance avec l'homme pour poursuivre l'homme et pour être plus efficace dans sa lutte. Donc, on découvre la grande stratégie du démon dans les chapitres 12 et 13. Et on montre l'enjeu de la guerre. L'enjeu de la guerre, c'est que le démon ne peut pas supporter le mystère de Marie, le mystère de l'homme et de la femme. Il a une haine contre eux. L'homme et la femme, qui sont les chefs-d'œuvre de Dieu. Et il veut par tous les moyens le détourner de sa finalité. C'est, je crois, cela que nous apprend avant tout l'Apocalypse. Ensuite, après cela, on voit la manière dont tout va se passer au terme. Le jugement de Dieu. Comment Dieu va dévoiler.
Avant d'en arriver là, toute petite question sur les bêtes de la mer et de la terre. Là. Cette alliance, ça sent très intéressant. Cette alliance entre le démon,
cette alliance
et, les
démon
hommes,
et les hommes, ça elle est prodigieuse.
Oui, c'est très important.
Elle montre comment le démon singe toujours le mystère de l'incarnation. Le Père a voulu sauver les hommes par le mystère de l'incarnation. Et le démon est furieux de cela. Il veut lui-même faire tomber l'homme en se servant de l'homme. Il va se servir de l'homme, la bête de la mer. C'est, je crois, le point de vue de la corruption de l'intelligence. La bête de la mer a sept têtes. Mais sur la tête de la bête de la mer, il y a des noms de blasphème contre Dieu. C'est-à-dire qu'il se sert de l'homme pour nier l'existence de Dieu. Et pour moi, la bête de la mer, c'est bien toutes ces idéologies athées pour nous. Avant, c'était différent, c'était toutes les erreurs. Le démon se sert de l'homme pour mentir et pour nous séduire par le mensonge. Et le dernier mensonge, le plus fort, c'est de nous séduire, les hommes en prétendant que les hommes vont pouvoir se sauver par eux-mêmes. Il y a une caricature étonnante de la blessure du cœur par une des têtes de la bête qui était blessée à mort. Et la bête va pouvoir elle-même, en quelque sorte, ressusciter. Alors ça reste symbolique, hein. Et comme c'est symbolique, c'est pas commode à expliquer, mais c'est quand même une sorte d'imitation prodigieuse du mystère de la blessure du cœur. Le Christ, c'est la blessure du cœur. Là, c'est pas la blessure du cœur, parce que la bête, elle n'a pas de cœur, elle n'a qu'une tête. Il n'y a que la tête et le pouvoir. Le cœur disparaît, puisque le démon n'aime plus. Donc il sait plus ce que c'est que l'amour.
L'inverse.
Alors il y a l'inverse, c'est que l'intelligence est au service de la puissance. Et la bête de la tête de la mer montre une intelligence qui reste très éveillée, d'autant plus éveillée qu'elle est blessée, mais qu'elle se guérit elle-même. Et une intelligence dans son immanence parfaite, qui, blessée, ressuscite, sorte de symbolise la dialectique étonnante. Et tout ça est au service d'un pouvoir. Alors il y a la bête de la mer et la bête de la terre, l'alliance avec le point de vue de la puissance. Oui, l'intelligence pervertie et la puissance pervertie pour essayer de donner comme le champ.
La puissance, ça peut être la maîtrise technique, oui, la domination
de la matière. Par l'argent, la terre. Oui, alors il y a les deux aspects qui vont s'allier, puisque la bête de la mer, de la terre, est au service de la bête de la mer. Elle est là pour faire des prodiges étonnants, parce qu'elle a reçu de la bête de la mer un pouvoir pour faire ses prodiges et pour séduire les gens. Et on voit comment le démon, par le point de vue de la puissance, intimide, par le point de vue de l'intelligence, pervertie. C'est la perversion de l'intelligence. Au-delà d'un amour et le point de vue de terrifier les gens par la puissance. Je crois que c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. On est sous le règne de la bête de la terre et la bête de la mer.
Vous disiez tout au début.
Si on regarde attentivement, oui. Et tout cela pour faire que l'homme perde le sens de sa destinée, de sa finalité, on dirait. Et l'œuvre de la bête de la terre et la mer, c'est la Babylone. Et tout Apocalypse se termine pour montrer la grandeur de la Babylone et comment Dieu, dans son jugement, démasque ce qu'est la bête, ce qu'est la Babylone.
La Babylone, c'est la cité terrestre sans Dieu.
C'est la cité terrestre sans Dieu, c'est la cité de prostitution. Mais prostitution, c'est-à-dire de l'idolâtrie. Où l'homme ne sait plus ce que c'est que adorer Dieu. L'homme sur la grandeur de la Babylone. Oui, on montre comment tous ceux qui sont liés à la Babylone alors se mettent à pleurer devant ça. Alors l'un des sept anges aux sept coupes s'en va me dire « Viens, que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Il me transporta au désert en esprit et je vis une femme, oui, l'antithèse de Marie, une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et 10 cornes. Donc les têtes, c'est l'intelligence pervertie, et les cornes, c'est le pouvoir. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Je crois qu'il faut toujours prendre prostitution dans le sens biblique, c'est-à-dire l'idolâtrie. Sur son front, un nom était inscrit à mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte aux sept têtes et aux 10 cornes. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était et n'est plus, et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les sept têtes, ce sont sept collines sur lesquelles la femme est assise. La colline, c'est toujours l'orgueil et la vanité. Donc, toute enflure imaginative au service de la bête. Et donc, l'Apocalypse nous montre le jugement de la Babylone. Dieu va en dernier lieu, et c'est là le sens du jugement dernier, qui n'est pas du tout ce que nous pensons. Nous croyons Dieu condamne. C'est pas ça du tout. Le jugement dernier, c'est Dieu qui nous met devant la réalité. Comment les hommes ont été trompés, ont été séduits. Et on va montrer la vérité pour libérer l'homme de cette emprise terrible du démon, de cette séduction et du mensonge, pour qu'enfin on voit la Jérusalem céleste. Oui. Donc, au fond, l'Apocalypse nous décrit les grandes luttes dans lesquelles on se trouve, l'action toujours présente du démon, sa stratégie, sa tactique, et comment Dieu, à travers tout, dans le Christ, est victorieux. Et la grande victoire du Christ, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce cheval blanc qui est à la tête des armées de Dieu.
Et alors, à la fin de l'Apocalypse, il y a un combat eschatologique entre les...
Alors, à la fin de l'Apocalypse, il y a le dernier combat, Gog et Magog. C'est très curieux. Gog montre bien que c'est deux contraires qui sont semblables. C'est pour ça que je crois que c'est le combat économique pour moi. C'est un combat apparence neutre. Et en réalité, c'est ce combat qui fait que l'homme se détruit lui-même. Et que Dieu ne permettra pas que l'homme se détruise lui-même. Mais au moment où tout est prêt pour que l'homme se détruise lui-même, le Fils de l'homme revient dans sa gloire.
C'est quoi le retour du Christ? Faut l'imaginer de manière matérielle, ou c'est
ça? Je l'imagine d'une façon tout intérieure. C'est que je crois que le Christ dans sa gloire, nous ne pouvons le voir que de l'intérieur. Nos yeux, impossible.
C'est la fin du monde.
C'est la fin du monde. C'est le terme de tout. La fin des temps et la fin du monde. La fin des temps et la fin du monde, c'est le retour de Jésus. Le Christ qui se manifestera à tous. dans le ciel, c'est l'arc-en-ciel qui est autour du trône, qui est le signe et que tout le monde voit. Et le Christ, dans sa gloire, se manifestera. Et tout le monde, d'une vision intérieure. C'est bien évident, ça ne peut être que d'une vision intérieure. Mais une vision intérieure tellement puissante qu'on sera tous saisis par cela. Et à ce moment-là, Jésus lui-même nous prend. Et si on assiste encore vivant sur la terre au retour du Christ pour nous glorifier. L'Apocalypse montre la grande victoire de la croix à travers toutes ces luttes. Et que cette victoire de la croix est toujours présente. Mais que le démon essaie, comme à la croix, d'être victorieux. Le démon à la croix pense être victorieux. Et il crie victoire. Puisque de fait, Jésus est son prisonnier. Qu'il ne peut plus bouger. Il est prisonnier sur la croix. Il y en a vraiment, en lisant l'Apocalypse, l'impression que le démon veut dominer sur les hommes. Et sa grande victoire, c'est de faire que le chef-d'œuvre de Dieu dit « Dieu n'existe pas ». Pour qu'il montre à Dieu, voyez, votre chef-d'œuvre, voilà ce qu'il fait. Il vous renie, il vous rejette. Les petits derniers, c'est cette jalousie du démon.
On retrouve la Genèse, l'Apocalypse éclaire la Genèse.
Les deux se tiennent, le commencement et la fin. C'est pour ça qu'il est toujours montré dans l'Apocalypse que l'alpha et l'oméga se tiennent. C'est donc une grande théologie de l'Église, mais de l'Église responsable du monde entier, comme Jésus tête, non seulement de l'Église, mais de tous les hommes. Et on montre comment l'Église est responsable du monde entier et que le combat dans l'Église prend une force unique, mais que c'est le même combat de toute l'humanité et que Jésus est là, présent dans ce combat. C'est le combat de la lumière et des ténèbres, tel que saint Jean le montre. Et Jean, vivant cela, va ensuite nous montrer le grand mystère du Christ victorieux. C'est pour ça que je crois que c'est à cause de l'Apocalypse que Jean écrit l'Évangile. L'Évangile de saint Jean est tout entier tourné vers Jésus. Après nous avoir montré sa rencontre avec Jésus, nous parlions tout à l'heure. Donc sa vocation propre, saint Jean nous montre tout de suite comment Jésus commence sa vie apostolique avec ses apôtres. Et nous pouvons ponctuer l'évangile de Jean. Du moins, c'est ce que moi, il m'est apparu. Qu'il y a un ordre dans l'évangile de Jean, très caché. Mon professeur d'exégèse, quand il voyait saint Jean et l'évangile de saint Jean, après ça allait très vite, on voyait ça très rapidement. Il disait qu'il ne fallait surtout pas chercher d'ordre dans l'évangile de saint Jean. Que l'évangile de saint Jean, chaque page était très intéressante, mais il ne fallait pas chercher d'ordre et donner cet exemple très simple. Je viens de recevoir la dissertation d'un étudiant. On m'appelle au téléphone. Mes fenêtres sont ouvertes. Il y a un grand vent. Je quitte rapidement. Et quand je reviens, toutes les feuilles s'en vont dans tous les sens. L'étudiant a oublié de noter, de paginer ces différentes feuilles. J'ai pas le temps de retrouver l'ordre. Je lis chaque page, intelligente, mais je vois pas l'ordre. Eh bien, l'évangile de Jean, c'est ça. Ce bon père avait oublié que c'est pas la même chose. Le vent, ce souffle du vent et le souffle de l'Esprit Saint. C'est que c'est vrai, chaque page de l'évangile de Jean apporte quelque chose. Apparemment, je ne découvre pas un ordre à la manière de Descartes, à la manière de la logique de Port-Royal. Mais si je suis attentif, je découvre un ordre beaucoup plus profond, qui est un ordre de vie. Et puisque ce professeur disait ça, j'étais, moi, très attentif à découvrir dans l'évangile de Jean progressivement une sorte d'ordre qui nous permettrait de mieux le comprendre. Le propre du sage est d'ordonner. Si l'auteur principal de l'évangile de Jean, c'est l'Esprit Saint, il doit y avoir un ordre de sagesse. Et Jean est suffisamment docile à l'Esprit Saint pour ne pas supprimer cet ordre de sagesse. Et donc on doit découvrir un ordre de sagesse. L'ordre de sagesse de l'évangile de Jean me semble être ponctué par les repas. C'est même très impressionnant cela. Première partie du chapitre 2, Cana. Cana, le début de la vie apostolique de Jésus. Jusqu'au chapitre 6, la multiplication des pains. Deux repas totalement différents. L'un, le repas par excellence, bien préparé. Et l'autre, un repas qui n'est pas préparé du tout, qui est un pique-nique. Et même dans ce pique-nique, c'est Jésus qui fait tout, puisque personne n'a emporté avec soi ce qui était nécessaire pour le repas. Cana, multiplication des pains. Troisième repas, chapitre 12. C'est le repas de Béthanie. C'est le repas d'action de grâce où Marthe et Marie remercient Jésus de la résurrection de leur frère. Et avec ce repas de Béthanie, on entre dans la dernière semaine. Et dans la dernière semaine, il y a encore ce repas, le repas avec le lavement des pieds, qui est la Pâque. Et enfin, dernier repas, le repas du petit matin, après la résurrection, tout près du lac de Galilée. Il y a donc cinq repas dans l'évangile de Jean, et qui, je crois, permettent de ponctuer d'une manière très particulière l'évangile de Jean. C'est très étonnant de voir que l'Ancien Testament est ponctué par les sacrifices. Et ce qui est ultime dans la révélation chrétienne, c'est bien l'évangile de Jean. Toute la révélation se termine avec l'évangile de Jean. Et cet évangile est ponctué par le repas. Alors, cela m'aide à comprendre. L'Ancien Testament, c'est avant tout le grand mystère de l'adoration qui demeure à travers toute l'Écriture, qui est très présent dans l'Apocalypse. Et l'Évangile de Jean, c'est encore l'adoration. Mais au-delà de l'adoration, est présenté les repas. Les repas, c'est le mystère de la charité fraternelle. Et c'est ce mystère de la charité fraternelle qui va comme ponctuer tout l'Évangile de Jean. Alors on va essayer de comprendre cela, parce que ça donnera comme une clé qui nous permettra de découvrir profondément ce que Saint Jean veut nous faire découvrir, le cœur de Jésus, doux et humble de cœur, le cœur du Christ, source de tout amour, le cœur de Jésus qui est venu répandre le feu sur la terre et qui n'a qu'un seul désir, c'est que ce feu brûle tout. La première période de la vie apostolique de Jésus, de Cana à la multiplication des pains, on est en présence des mystères de joie. C'est comme les prémices de la vie apostolique de Jésus. C'est les rencontres de Jésus, les présences de Jésus. À Cana, il répond à une invitation. Il vient avec ses apôtres. Parce qu'il a choisi ses apôtres, il ne peut plus les quitter. Ce sera à travers sa vie apostolique et dans sa vie apostolique qu'il va éduquer les apôtres, leur faire comme un noviciat. Et au point de départ, on a première rencontre de Jésus, cette première présence, Cana, la purification du temple, et Nicodème. Ces trois premiers moments sont réservés au peuple d'Israël et sont dans la lumière encore de cette grande affirmation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Je crois qu'on pourrait dire qu'on est là en présence du cycle de l'agneau, c'est-à-dire les trois grands gestes de miséricorde de Jésus à l'égard de son peuple. Miséricorde à Cana. Jésus invité à ce repas de noces, il manque de vin. Et Jésus réalise ce geste de miséricorde, transformer l'eau en vin. Et il le fait dans une largeur, dans une générosité étonnante. 5 à 6 hectolitres. Ça, je crois que là-dessus, on peut avoir confiance aux exégètes. Ils peuvent bien calculer ça. 5 à 600 litres de vin, c'est quand même pas mal. Et selon la déclaration du chef, du président, de ce repas de noces, alors comprenons bien du reste que ce repas de noces, ça ne dure pas qu'un jour, hein. Ça doit durer 8 jours, on fait bien les choses. Ce vin second est meilleur que le premier. Lorsque Dieu intervient, comme dit saint Augustin, Dieu fait toujours les choses beaucoup mieux. Jésus, présent à ses noces, à Cana, au milieu de ses amis, ce sont des amis. On a invité tous les amis pour ses noces. On a invité Marie. Et comme Jésus n'est pas là, on a fait une nouvelle invitation pour Jésus. Et comme Jésus ne voulait pas quitter ses apôtres, on lui a dit de venir avec ses apôtres. Et dans ce repas de noces, il y a un événement très particulier. C'est qu'il manque de vin. Et Jésus, grâce à la médiation de Marie, grâce à la prière de Marie, Jésus intervient alors qu'il est un invité pour donner en surabondance ce vin. Si on essaie de comprendre un peu ce que signifie ce geste du Christ, Jésus parle toujours en parabole. Les noces, c'est montrer la grandeur de l'amour humain. C'est proclamer la grandeur de l'amour humain. Et Jésus est présent à ces noces pour bien montrer qu'il est là pour montrer, pour approuver cet amour humain. Proclamer, fêter, et qu'il manque de vin à ses noces, c'est aussi pour montrer que quand Jésus est là présent auprès de son peuple, il y a un grand manque. Les hommes ne savent plus aimer, même de cet amour d'amitié dans les noces, dans le mariage. Il faut que Jésus vienne pour redonner un nouvel amour. C'est Jésus qui veut manifester qu'il vient pour renouveler l'amour à sa racine, à sa source, dans le foyer, dans le cœur de l'époux et de l'épouse. On comprend très bien qu'à partir de là, c'est Jésus qui vient pour le peuple d'Israël, les aider à répondre à cette exigence de la loi qu'il faut s'aimer et surtout dans le foyer, dans la famille. saint Thomas note que d'une façon beaucoup plus profonde, on peut dire que Jésus vient enseigner à travers cette transformation de l'eau en vin, qu'il vient transformer l'amour humain en un amour divin, l'eau et le vin, et qu'il vient apporter un amour nouveau par une prière intérieure. Il dit que c'est le sens mystique des noces de Cana. Le second geste du Christ, c'est de Cana, il monte à Jérusalem, après être passé par Capharnaüm. Et saint Jean souligne du reste que la mère de Jésus le suit à Capharnaüm. Marie ne retourne pas à Nazareth, mais elle va suivre Jésus. Ce sera la première femme qui va suivre Jésus. Et les autres vont se joindre à Marie progressivement. Jésus monte à Jérusalem et Jésus pénètre dans le temple. Et là, il voit que le temple n'est plus ce qu'il devrait être, un lieu de prière. Il y a une grosse agitation à cause de la vente des victimes, à cause d'échanges de monnaie. Et ceci devient intolérable pour Jésus. Et Jésus prend le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Et les disciples voient par là, à travers cette colère de Jésus, tout l'amour que Jésus a pour son Père. Jésus déclare avec force que la maison de Dieu doit être une maison.